La diminution des vers de terre, ça fait pas la une des journaux. Cependant, c'est tout aussi grave que le réchauffement climatique. Donc, il faut alerter sur l'importance de préserver la nature sous cette forme qui est proche de nous, mais que la plupart du temps, nous ignorons parce que ça marche tout seul. C'est une situation d'alerte. Il faut savoir que les décisions qui se prennent aujourd'hui vont influencer le sort de l'humanité pendant des milliers d'années. Nous avons déjà éliminé la moitié des espèces vivantes maintenant. Donc ça correspond à ce qu'on appelle une extinction massive, comme vous avez dit. C'est la sixième depuis le dernier milliard d'années, mais c'est la plus grave parce que c'est la plus rapide. Auparavant, les extinctions prenaient des milliers d'années. Maintenant, c'est des décennies. Alors, les animaux, la vie peut s'adapter, c'est une de ses qualités, mais pas à cette vitesse. Nous dépassons la vitesse, disons, je dirais presque maximale, d'adaptation de la vie.
L'IPBES, la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les écosystèmes, tire la sonnette d'alarme et se réunit à Paris depuis lundi pour produire un document de consensus, une sorte de, sur le modèle du GIEC, on peut le dire, pour informer sur l'état de la biodiversité. Le terme, d'abord réservé aux scientifiques, est devenu un maître mot du discours environnemental, mais en se chargeant d'un sens politique et médiatique, il aurait perdu de sa force et de sa rigueur scientifique. C'est en tout cas ce que regrette Alain Pavé. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur de « Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses » qui a été publié au Seuil dans l'excellente collection Sciences Ouvertes, un ouvrage qui tente donc de redonner une densité scientifique à la notion de biodiversité. Vous êtes professeur émérite de l'université Claude Bernard de Lyon, un spécialiste reconnu des sciences de l'environnement. Vous avez travaillé en particulier sur la modélisation mathématique des systèmes biologiques et écologiques, sur la dynamique de la biodiversité, sur l'écologie évolutive, alerte rouge sur la biodiversité dans le monde, ce sont les mots de la diplomatie française en l'ouverture de la réunion de l'IPBES, Hubert Riss qu'on vient d'entendre, qui nous parle de sixième extinction des espèces. Quel est votre sentiment sur ce vocabulaire et cet alarmisme ?
Alors, j'ai bien écouté ce que disait Hubert Riss. D'abord, j'ai beaucoup de sympathie pour Hubert Riss, c'est la première chose. Deuxième chose, il est clair que dans ce qu'il dit, je partage une partie de ce qu'il dit, mais pas tout. Et en particulier, cette affirmation sur la sixième grande extinction. Alors, je précise dès à présent que pour moi, la biodiversité, c'est un sujet de première importance. Il faut vraiment y consacrer tous nos efforts scientifiques et pas que scientifiques, mais qu'il faut garder quand même une certaine rigueur scientifique dans nos discours. Et là, sur la sixième grande extinction, je suis un peu désolé, c'est un peu trop quoi. L'aspect emphatique, le désir de frapper l'opinion publique est peut-être trop fort par rapport à la réalité. Et donc... Il y a des tas de problèmes qui se posent pour parler de sixième extinction. Il faut savoir que quand on regarde le passé, on oublie d'abord la première vraiment grande extinction où tous les organismes ont disparu, celle dont on a la trace, parce qu'il y en a peut-être eu d'autres avant, mais celle dont on a la trace, qui est la disparition de la radiation des Diakara, on serait aujourd'hui à la septième, non pas la sixième.
Et c'était quand ça, la disparition des Diakara?
La disparition, c'était à peu près 545 millions d'années. Vous me passerez un ou deux millions d'années.
À quelques millions d'années près. Parce que justement, une extinction de masse, ça se définit comment? Par la disparition d'au moins les trois quarts des espèces marines et continentales, c'est en tout cas ce que j'ai pu lire, un temps court, c'est-à-dire entre un demi-million d'années et quelques millions d'années.
Voilà, exactement. C'est le temps court de la géologie. C'est l'échelle de temps qu'utilisent nos amis géologues. Et qui se recale par rapport à la vie de la planète. La planète, 4 milliards d'années. Enfin, 4,5 milliards d'années et la vie, 4 milliards d'années.
Et alors, quand on se place à l'échelle de quelques dizaines d'années, quelques décennies, à peine en siècle, Alain Pavé, comme c'est le cas aujourd'hui, parce que ce n'est pas qu'un discours médiatique, qu'un discours politique. Il y a bien des études, des analyses. Fin 2017, dans la revue Bioscience, 15 000 scientifiques avaient adressé une alerte solennelle sur la destruction de l'environnement. La revue Nature, en 2011, avait réuni un certain nombre d'articles d'écologues qui se sont demandé si justement on ne vivait pas cette sixième grande extinction. Ce que dit Hubert Riss sur la disparition très très rapide des espèces, tout ça, c'est vrai?
J'allais dire oui ou non. Alors j'explique le oui et le non. Oui, on a observé des disparitions assez rapides d'espèces, mais le problème de la référence du passé est qu'on est dans des échelles de temps très différentes. Et estimer des vitesses en soi, déjà, c'est quelque chose de compliqué. Moi, j'y étais confronté sur des expériences de labo. Hein. On n'était pas du tout à l'échelle géologique, sur des fossiles, etc. Donc j'ai eu à estimer des vitesses, je peux vous assurer que c'est pas facile. Déjà, quand on a des bonnes données venant du laboratoire. Alors, estimer des vitesses sur des enregistrements de fossiles, enfin sur des enregistrements géologiques, où, en gros, comme le disait Vincent Courtillot lors d'un film qu'on avait tourné ensemble, disait, moi, mon échelle de temps, c'est 1 million d'années. Ben oui, alors le million d'années, les dizaines d'années, on est quand même à des échelles de temps très différentes. Donc, c'est très difficile de comparer.
Donc rendez-vous dans 1 million d'années pour savoir si on a vécu la 6e grande extinction.
Voilà. Dans 1 million d'années,
qu'on comprenne bien pour, sur ce problème de la vitesse. Qu'est-ce qui rend difficile? C'est-à-dire que comme on est dedans, en fait, on est dans une échelle trop courte. Donc, si ça se trouve, les populations vont remonter. En 25 ans, on nous dit que près d'un tiers des mammifères, des reptiles, des amphibiens, des oiseaux, des poissons ont disparu. Mais bon, 25 ans, c'est très peu. Si ça se trouve, ils vont revenir. On a vu les thons rouges dans la mer Méditerranée, par exemple, revenir en masse.
Ça, c'est effectivement le message qu'il faut faire passer. C'est que la vie, ça n'arrête pas de bouger. C'est en changement permanent. Comme disait un de mes collègues physiciens, c'est l'invariant du vivant, c'est les variations. C'est un peu une provocation, parce qu'on est en opposition de mots, mais c'est vrai que c'est ça. Et ce qui est permanent, c'est le changement. Donc à partir du moment où on est dans un... Alors pourquoi on se pose ces questions? C'est parce qu'on sait quand même observer maintenant, un peu mieux qu'on savait observer même au 19e siècle, et encore moins avant. Alors c'est pour ça que de temps en temps, quand je vois même des références historiques, ça me laisse un peu pantois, parce qu'on donne des références historiques avant même que la notion d'espèce ait été formalisée. Donc on prend comme point de départ, en gros, le début du XVIe siècle, donc 1500, c'était l'Amérique, enfin c'était tout ça. Là, d'un seul coup, on a beaucoup de biodiversité qui est apparue dans les catalogues, puisqu'on est arrivé dans un continent nouveau. Mais cela étant, à partir de 1500, quand on se référence au passé, il faut savoir que les méthodes qu'on avait, d'abord on n'avait pas de méthode, en fait, faute claire. C'était des récits de voyageurs qui étaient au demeurant très intéressants, mais c'est quand même approximatif. Donc il y a réellement un problème qui est un vrai problème sur lequel il faut accorder beaucoup de temps. C'est un problème méthodologique. Mais peut-être
météorologique aussi. Non, mais justement, je voulais y venir. C'est peut-être qu'on est informé aussi de ce qu'on sait du réchauffement climatique. Et on a vu le négationnisme sur le changement climatique, le réchauffement climatique. Au début, quand les scientifiques alertaient, il a fallu faire un GIEC, c'est-à-dire avoir un regard scientifique à peu près, non pas unanime, puisque c'est impossible, mais consensuel sur cette question. Et donc, on se dit que sur cette disparition d'un certain nombre d'espèces qui est réelle, hein, qu'on peut mesurer pour le coup véritablement. Peut-être que les appréciations sur la vitesse, comme vous l'avez dit, Alain Pavé, ne sont pas aussi rigoureuses qu'elles le devraient, mais malgré tout, on est bien face à la chute d'un certain nombre d'espèces, de la population d'un certain nombre d'espèces sur une aire donnée.
Bien sûr, mais tout à fait. Là, moi, alors, le terme négationniste, faut faire très attention, parce qu'il est quand même très connoté, autrement connoté. C'était des gens qui critiqués, qui n'étaient pas en accord avec les positions sur le climat. Je précise tout de suite que nos collègues qui travaillent sur le climat ont un très gros avantage par rapport à nous. Le gros avantage, c'est qu'ils disposent de lois physiques. Ils peuvent construire des modèles fiables, le plus fiable possible, bien plus que ce qu'on sait faire nous, et ils peuvent être beaucoup plus rigoureux. Donc c'est une grosse différence. La situation, paradoxalement, est beaucoup plus simple que pour la biodiversité. La biodiversité, on est devant un objet qui est très difficile, très complexe. Et il faut vraiment y accorder beaucoup d'attention.
Dans l'intervention d'Hubert Reeves qu'on a entendu, à la fin, il disait on détruit plus vite que la capacité du vivant à se reconstruire. On n'a pas commenté cela encore, Alain Pavé. Je vous propose d'écouter Franck Courchamp, qui est écologue au CNRS et qui expliquait justement sur sa chaîne YouTube quelque chose qui allait dans ce sens.
Tous les jours, ce sur quoi je travaille me montre à quel point ça va mal. C'est-à-dire que ça a vraiment empiré depuis ces dernières décennies. Ça veut dire qu'on fait de pire en pire. On n'apprend pas. Je vois les études telles qu'elles sont et je vois à quel point tout disparaît vite et surtout à quel point on a une apathie de la société. Les gens sont plus intéressés par le fait de savoir si leur équipe de foot va gagner ou de savoir quel est le salaire du prochain transfert dans leur équipe que de savoir si la biodiversité est en train de s'écrouler et si on est en train vraiment de scier la branche sur laquelle on est assis. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est pas du tout catastrophiste de dire qu'on se dirige vers un avenir post-apocalyptique. Enfin, apocalyptique d'abord et ensuite post-apocalyptique.
La fin du monde.
C'est-à-dire, pas la fin du monde, parce que le monde, il va s'en relever. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Hein. La biodiversité, elle va refleurir. Il y aura à nouveau des millions d'espèces. On sait à peu près combien de temps ça va prendre. À partir du moment où l'homme arrêtera de taper dessus, il faudra à peu près 1 million d'années pour retrouver des niveaux équivalents. La mauvaise nouvelle, c'est que l'homme sera certainement plus là pour en profiter.
Alain Pavé. Bien. Alors, c'est un peu comme... Pour Hubert Rive, je partage une partie de ce que vient de dire Franck Courchamp, que je connais par ailleurs très bien, donc et qui fait d'ailleurs un excellent travail, notamment de médiatisation du fait scientifique. Là, il a fait sur Arte une série de petits films absolument remarquables.
Et là, c'est sa chaîne YouTube sur laquelle on a récupéré cet extrait.
Oui, mais tout à fait, c'est fait un travail remarquable. Alors, encore une fois, est-ce que ce langage catastrophiste est adapté au langage scientifique, j'en suis pas sûr. On a un collègue québécois qui s'appelle Yves Gingras, qui parle d'armes de distraction massive, c'est-à-dire qu'on aime se faire peur. Se faire peur, la peur se vend bien, enfin tant qu'elle fait pas du mal. Hein, c'est avoir peur, on aime bien avoir peur. Hein, quand on faisait les manèges. Sur les fêtes foraines, eh ben, elles sont fondées sur la peur, parce que la sécurité en même temps, mais quand même avec une émotion constante dans le remue-ménage que ça peut engendrer. Donc oui, alors, encore une fois, je suis en partie d'accord avec Franck Courchamp, bien sûr, mais je suis aussi en partie désaccord sur la forme du message.
La forme du message
catastrophiste.
Catastrophiste. Mais il faut bien, malgré tout, dans ce passage, on reproche souvent aux scientifiques de rester dans leur tour d'ivoire, de ne pas descendre dans l'arène politique, et surtout sur un sujet comme celui-ci, et qui intéresse manifestement de plus en plus les Français, et à bon droit, qui est celui de l'écologie. Donc vous êtes écologue, je ne sais pas s'il faut dire comme ça, en tout cas c'est votre...
Plutôt écologue.
C'est votre champ plus écologue qu'écologiste, vous voulez dire ?
Oui, parce que le problème de l'écologie, c'est qu'elle est tellement morcelée avec différentes, disons, orientations. C'est la seule discipline scientifique, d'ailleurs, qui est comme ça. Donc, on a l'écologie scientifique. Là, je me revendique plutôt d'écologie, enfin, même complètement d'écologie scientifique. Il y a l'écologie politique, dont on parle beaucoup, mais il y a l'écologie religieuse. Vous savez peut-être que, ou peut-être pas, je ne sais pas, mais c'est que la seule discipline scientifique qui a un saint patron. Donc Jean-Paul II, en 79, a déclaré que le saint patron de l'écologie serait évidemment saint François d'Assise. Donc on a donc l'écologie religieuse, etc. Bon, je l'écologie médiatique. Il y a même, je dirais, un versant qui est un peu embêtant, qui est l'écologie mercantile. Vous voyez actuellement beaucoup d'entreprises verdissent le greenwashing. Ça, c'est clair. Excusez-moi du terme anglo-saxon, mais...
Vous avez dit verdi avant, donc ça convient. Je pense que les auditeurs auront compris Alain Pavé. Ce que j'aimerais comprendre, moi, c'est en quoi, finalement, ces autres formes d'écologie, parlons surtout de l'écologie médiatique et de l'écologie politique, si vous le voulez bien, viennent polluer, selon vous, et excusez-moi du mauvais jeu de mots, viennent polluer l'écologie scientifique, qui est celle que vous venez de défendre.
Eh bien, alors pollué, je ne sais pas si le terme est bon. Moi, je ne suis pas du tout pollué par l'écologie médiatique ou l'écologie politique. J'y trouve certains... Par exemple, prenons l'écologie politique. L'écologie politique, j'ai des points d'accord avec un certain nombre de discours. Quand l'écologie politique nous dit que le problème n'est pas uniquement un problème biologique au sens classique du terme, mais qu'il y a des problèmes socio-économiques qui sont liés et qui sont effectivement, je dirais qu'une partie d'ailleurs des problèmes aujourd'hui qu'on a avec la biodiversité, ce sont quand même d'origine socio-économique. Je partage évidemment cet avis. Cela étant, il y a d'autres points de vue que je ne partage pas.
Alors, dans Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses, Alain Pavé, que vous publiez donc aux éditions du Seuil dans la collection Sciences Ouvertes, justement, vous analysez ce passage du terme biodiversité, du langage scientifique au langage courant, pour le dire comme ça. Quelle est la définition scientifique de la biodiversité et en quoi elle a évolué au cours du temps?
Alors, je crois que la meilleure définition avait été donnée, non pas en 88 dans le livre qu'avait édité Edward Wilson, mais dans un autre livre qui est moins connu, parce que il était un peu plus difficile d'accès sur le plan scientifique, qui était un livre qui était publié suite à une réunion à Harvard, donc en 90, et dont l'éditeur était Otto Solbrig. Et là, il parle de biodiversité, excusez-moi encore, alors que je suis un grand défenseur de la langue française, je vais prendre le titre dans la langue originale, c'est-à-dire l'anglais, « From gene to ecosystems ». C'est-à-dire qu'en gros, la biodiversité, c'est pas uniquement... aujourd'hui, c'est les espèces. En plus, l'espèce, faut savoir que c'est une catégorie...
On va y revenir.
Taxonomique, bon, c'est pas une catégorie fonctionnelle. Bon, je passe tout de suite, parce que si on y revient, je détaillerai un tout petit peu. Mais du gène à l'écosystème, oui, c'est bien ça. C'est-à-dire que on a une diversité, évidemment, des gènes, puisque c'est ce qui va caractériser le développement et les formes des organismes et leur fonctionnement. Mais on a également les organismes, on a les populations. Les populations, c'est un ensemble d'individus interféconds, pour simplifier. On a les communautés, c'est-à-dire des êtres vivants qui vivent ensemble dans un écosystème. Et puis vous avez les écosystèmes, et puis vous allez jusqu'à la biosphère. Donc en fait, c'est tout un tas de niveaux d'organisation qui vont du gène effectivement à l'écosystème. Et donc réduire ça à un discours sur les espèces, c'est épouvantable. Alors là je dis franchement, scientifiquement, c'est épouvantable.
Vous le dites, il y a une loi dans la biodiversité, l'une des rares lois de la biodiversité, justement, c'est cette loi R espèce, ouais. C'est-à-dire le ratio entre le nombre d'espèces sur une aire donnée, un espace donné, mais vous dites, elle est très mal utilisée.
Oui. Alors, elle est très bien utilisée quand on veut estimer, par exemple, sur une superficie assez grande, si on veut estimer le nombre d'espèces à partir d'un échantillonnage, donc il sera plus petit, parce que tout compter, c'est pas possible. Petite anecdote au passage, il y a une dizaine d'années, on comptait 1500 espèces d'arbres en Amazonie. Aujourd'hui, on est plutôt à 16 000. Donc, vous voyez que...
Je ne l'ai pas dit, mais vous avez été en charge d'installer l'antenne du CNRS en Guyane et vous avez été responsable du programme Amazonie pendant des années.
Voilà, exactement. Donc, je connais un peu le problème.
Oui, bien sûr.
Donc on est
passé à combien d'espèces maintenant
D'arbres sur l'Amazonie, on est passé donc de 12 500. C'est les mêmes qui l'ont fait. Donc c'est des gens qui ont dit, ben voilà, il y a 10 ans, enfin un peu moins de 10 ans, voilà ce qu'on a trouvé comme estimation. Maintenant, on est plutôt à 16 000. Donc c'est pas du tout de la concurrence entre des équipes qui rajoutent. Non, c'est les mêmes qui se sont dit, on a amélioré notre échantillonnage. Alors donc on peut estimer, évidemment, ça s'est estimé, non pas, ils n'ont pas compté tous les arbres, il y en a 90 milliards. Dans tout le système forestier amazonien. Donc, on n'a pas compté tout, mais on a fait des échantillonnages. Estimer le nombre d'espèces à partir d'un échantillonnage, ça marche bien, la loi et espèces. En gros, ça augmente. Plus vous observez, plus vous regardez une superficie ou des superficies grandes, plus vous aurez une estimation. C'est intuitif, hein. Il sera meilleur. Alors, par contre, ou en revanche, utiliser cette loi pour estimer des extinctions, c'est épouvantablement faux. Et là, il y a un article qui est paru début des années 2000, c'était en 2011, je crois, dans Nature, et qui démontrait pourquoi c'était faux. Pourquoi c'était énormément faux. Et c'est pas faux un petit peu, c'est faux énormément. C'est-à-dire qu'on se trompe totalement parce qu'il y a... Alors, je vais pas détailler la fausseté.
Non, mais en deux mots quand même, qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas mesurer la disparition d'une espèce juste en regardant une aire géographique où on avait l'habitude de la trouver, où on ne la trouve plus, ou peut-être, puisque c'est la deuxième caractéristique de ce qu'on mesure aujourd'hui, de voir les espaces, la réduction des espaces où l'on trouve une espèce donnée, telle ou telle espèce.
Oui. Alors, première chose, quand vous avez des espèces endémiques, on utilise le terme espèce, tant pis. Hein. Donc des espèces endémiques. Bon, c'est sûr que si on massacre l'espace dans lequel elle vit, cette espèce, c'est sûr qu'elle va disparaître. Alors, cela étant, les espèces endémiques, il n'y en a quand même pas des tonnes. Excusez-moi.
Par exemple, dans les zones humides, moment de Notre-Dame-des-Landes, trouver telle ou telle espèce de scarabée ou de plante qui...
Tout à fait. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que il y a un problème de logique. Alors, c'est ce qui avait été remarqué par Stéphane Hubel, qui était l'un des deux principaux auteurs de cet article. C'est qu'il y a une faute de logique. Quand vous faites un comptage, vous allez essayer d'estimer le nombre d'espèces. Alors vous avez un petit carnet, puis tac, vous voyez une espèce nouvelle, vous mettez plus un sur l'espèce. Puis le deuxième individu que vous allez voir, vous n'allez pas le marquer. Dans d'autres cotages, on le fait. Mais là, dans une première approximation, c'est pas ce qu'on fait. On fait de la présence-absence, comme on dit. Quand vous regardez, donc le premier identifié, c'est le premier qui va incrémenter le nombre d'espèces. Disparition d'espèces, c'est le dernier qui disparaît. Donc c'est complète. Il faut être sûr que vous ayez vu le dernier avant d'être sûr que cette espèce a disparu d'un espace donné. Donc on a une contradiction complète dans la logique. Et alors là, ça conduit à des estimations évidemment qui n'ont rien à voir avec avec ce qu'on fait si on prend directement cette loi pour estimer le nombre comme indicateur pour estimer les disparitions.
C'est qu'il y a, Alain Pavet, dans ce rapport, par exemple, aux oiseaux, on l'entend beaucoup, dans la forêt, dans les campagnes françaises, quelque chose, évidemment, qui relève du rapport à l'enfance, du rapport au passé, aux souvenirs, quelque chose de très émotionnel. Je vous propose d'écouter Boris Jolivet, il est audio-naturaliste.
Bah là, avant, on avait une friche bien plus grande, hein, qui prenait beaucoup plus d'espace, moins de culture, et dans cette friche, des arbustes, c'était beaucoup plus buissonnant. Du coup, on avait le tarier des prés. On avait le bruant proyé. C'est donc un petit passereau qui niche au sol, qui se nourrit d'insectes. Après, là, dans l'axe, on avait des haies encore le long de la culture. Là, on pouvait avoir de la pigrièche écorcheur et la fauvette grisette. Et puis enfin, dans cette zone de colza avec une petite prairie, là, c'était très commun la caille des blés. Et puis beaucoup de grillons aussi, les champs des grillons, ça prenait tout l'espace. On pouvait voir les sauterelles, dès qu'on traversait la prairie, ça sautait de partout. Aujourd'hui, quand je parle à des enfants, tiens, comment chante un criquet? Ils savent pas. Alors que moi, gamin, on regardait ça, voilà, il frotte sa patte et tout, c'est magique. C'est toute une part de magie, de beauté qui s'efface.
Culture. La grande table. Raphaël Bourgois.
Magie ou science de la biodiversité? C'est un peu de ça qu'on discute avec Alain Pavet, auteur de Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses. Alain Pavet, vous êtes professeur émérite de l'Université de Lyon, biométricien et spécialiste reconnu des sciences de l'environnement. On discute depuis le début de cette émission justement de cette utilisation du terme de biodiversité, à quel point elle est difficile à mesurer, à comprendre. Il y a un élément important dans votre livre et qu'il faut peut-être aborder ici, c'est la question du hasard. Le hasard comme condition de la diversité. Alors, dans ce à quoi on assiste aujourd'hui, on peut pas vraiment parler de hasard, s'il y a quand même la main de l'homme. Où est-ce qu'il faut estimer que cette présence de l'homme, ce qu'on appelle l'anthropocène aujourd'hui, cette capacité de l'homme de manière massive à venir influencer le cours de la nature, c'est le fruit du hasard?
Ah bah oui, c'est clair. D'abord, ce qui est clair, c'est que si nous avons cette nature autour de nous, ces êtres vivants qui nous entourent, c'est le fruit d'une évolution. En gros, qu'on fait remonter maintenant à peu près 4 milliards d'années. Mais prenons que l'époque récente, si je puis dire, les 600 dernières millions d'années. Bon, encore une fois, vous me pardonnerez les approximations. Oui, c'est l'évolution, et ça a été l'une des grandes révolutions scientifiques des deux derniers siècles, lorsque Darwin a publié De l'origine des espèces et qu'il a expliqué que ce qu'on voyait, ça pouvait s'expliquer autrement que par une création divine et que les processus naturels pouvaient très facilement expliquer cette diversité qu'il observait. Lui, il a parlé beaucoup de variations, ces variations qu'il observait. Et il avait pris comme exemple, comme support de réflexion, ce qui se pratiquait déjà depuis pas mal de temps, depuis le début de l'agriculture, ce qu'on appelle la sélection variétale par les agriculteurs. Donc on ne peut sélectionner que si vous avez de la diversité. parce que vous ne pouvez pas sélectionner sur une seule espèce. Ça va, il se passera rien. Donc, vous allez sélectionner sur une grande diversité. Et ce qu'on appelle hasard, encore une fois, un terme un peu globalisant, mais qu'on arrive maintenant, qu'on peut préciser quand même, son origine maintenant peut être parfaitement définie. Enfin, parfaitement, faut pas exagérer. Peut-être définie. On a fait quand même des gros progrès depuis quelques années. Et ce hasard, c'est lui qui induit des variations. Et c'est donc des variations qui fait que, en général, les enfants ne ressemblent pas aux parents, que dans une famille, il y a une diversité. Dès le noyau familial, il y a une diversité. Alors, ne parlons pas si on regarde l'ensemble des êtres vivants.
Oui, mais justement, si on parle de ces variations dans le nombre des populations, vous avez expliqué toute la difficulté, évidemment, à la mesurer, à la comprendre, à comprendre la vitesse de disparition ou de croissance de ces populations. Mais malgré tout, il semble aujourd'hui, en tout cas, c'est ce à quoi travaille l'IPBES en ce moment, il semble qu'il y ait recherche d'un consensus pour dire que la situation est quand même pas terrible en termes de nombre de populations et de diversité. Vous avez dit, oui, la main de l'homme, c'est du hasard, mais c'est un hasard, peut-être le seul, sur lequel on peut agir.
Ce hasard, c'est l'homme en tant que tel, au sens évolutif du terme, non pas au sens de l'action qu'il a. Évidemment, l'action qu'il a n'est pas toujours hasardeuse, encore qu'il joue au jeu de hasard.
Oui, mais sur la nature.
Sur la nature, à mon avis, il y a aussi quand même des choses qui sont un petit peu aléatoires dans la façon dont il agit sur la nature. Cela étant, maintenant, il réfléchit quand même. L'homme n'est pas complètement démuni. C'est d'ailleurs sa grande caractéristique, ce qui le distingue des autres êtres vivants, c'est qu'il est capable de comprendre des choses, de prévoir.
Il y réfléchit, mais est-ce qu'il agit suffisamment, selon vous ?
Suffisamment.
Est-ce qu'il faut agir ?
Alors, d'abord, il agit
pas
forcément bien.
Dans des systèmes complexes, qui sont faits d'équilibre ?
Oui, alors, non, pas d'équilibre. Alors là, c'est un terme à proscrire.
Très bien.
Dans Idéfos, c'est le terme d'équilibre. Il n'y a pas d'équilibre. La vie, heureusement qu'il n'y a pas d'équilibre. Sinon, il n'y aurait pas d'évolution. Sinon, on ne serait pas là. Hein, s'il y avait un équilibre, c'est établi depuis quelques milliers d'années après les premiers êtres vivants. Et ici, on aura un grand océan avec plein de bactéries dedans et même pas cette jolie biodiversité qui nous entoure. Donc, c'est clair. Il faut proscrire le terme équilibre.
Très bien.
Idée fausse.
Parfait, je le proscris de mon vocabulaire, Alain Pavé. Promis, je ne prononcerai jamais plus le mot équilibre.
Vous pouvez...
Non, mais à propos de la nature, évidemment, parce que je vais quand même continuer à utiliser ce mot qui est bien utile. On parlait de système complexe, par essence non linéaire, et donc sur la question de l'intervention de l'homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien qu'il y a une intervention néfaste. Est-ce que selon vous, vu ce que vous connaissez de la biodiversité, la façon dont vous envisagez la biodiversité, est-ce que, pour le dire assez simplement, toute forme de correction, d'intervention pour essayer de corriger ça, est-ce qu'on est sûr que ça irait dans le bon sens, que ça apporterait les solutions qu'on aimerait apporter?
Disons qu'aujourd'hui, on a au moins quelques bases scientifiques qui permettraient de dire ce qu'il faut faire.
Par exemple?
Par exemple, quand on met des aires en protection, ça c'était un succès quand même, de faire de...
En fait, ce qu'il faut faire, c'est ne rien faire. C'est protéger, ne pas agir.
C'est en gros mieux qu'agir de travers. Mais on peut aussi agir de façon extrêmement positive, en facilitant, par exemple, la diversification elle-même. Tout à l'heure, on parle beaucoup de ce qui disparaît, mais on compte jamais ce qui apparaît. Il y a des espèces nouvelles qui apparaissent tous les jours, mais on les voit pas. Donc on les compte pas. Donc, en gros, ce changement, on ne compte que ce qui disparaît, et on ne compte pas ce qui apparaît. Alors le problème serait de savoir, d'avoir effectivement un bilan d'apparition et de disparition. Or actuellement, on n'a qu'un bilan du côté disparition. Par contre, apparition, je cite quelques exemples, enfin au moins un exemple dans mon livre, il y en a d'autres, hein. Un exemple dans mon livre, c'est le fameux moustique du métro de Londres, hein, où il y a une nouvelle espèce de moustique qui est apparue. Quand on a creusé...
Oui, enfin, on perd les gorilles, on gagne le moustique du métro.
Ah oui, non, mais bien sûr. Ce qui d'ailleurs est... C'est pas un bon moustique, hein. C'est un moustique qui pique.
Oui, on s'en doute, c'est leur fonction première.
Mais bien sûr, je suis d'accord avec vous. On n'a pas gagné le moustique du métro de Londres, mais on a vu à ce sujet-là qu'une espèce nouvelle pouvait apparaître extrêmement rapidement. Sur le moustique, j'ai appris ce matin qu'il y avait un labo qui venait de s'ouvrir à Strasbourg, qui pour étudier les moustiques, qui sont des vecteurs de maladies. Donc la biodiversité n'est pas toujours bonne. Donc ces moustiques, ça pique, ça transmet des virus de temps en temps, c'est quand même pas marrant.
C'est pas marrant, c'est vrai, les moustiques. Je vous le confirme, Alain Perret, bien que moi, il me pique assez peu, je le dois dire. C'est un des mystères de la nature. Cette interdépendance que vous développez dans comprendre la biodiversité, c'est aussi ce qui intéresse l'IPBES dont on parle depuis le début. Et pour l'illustrer, ils disent, il y a aussi une interdépendance de nature économique. On voit se développer, et vous l'avez dit, vous avez parlé du greenwashing, mais il y a une autre forme d'approche économique qui est de dire, finalement, la biodiversité, c'est un asset, comme on dit en économie, c'est un gain économique. 40% de l'économie mondiale repose sur des services gratuits rendus par la nature. C'est ce que disent les experts CDC Biodiversité, une filiale de la Caisse des dépôts. Quel est votre regard là-dessus?
Bon, écoutez, là, j'avoue que je suis pas très très bon en sciences économiques. La seule chose que je vois, Alain, en tant que modélisateur, c'est que les modèles de nos amis économistes sont pas excellents. Les prévisions en termes économiques, comme disait Bernard Maris, un économiste, c'est celui qui vous dit le lendemain pourquoi il s'est trompé la veille. Donc c'est alors, je veux pas, comme je suis pas spécialiste de la question, mais difficile de répondre.
Cette approche, c'est
un problème de conflit à l'intérieur même de l'IPBES. C'est-à-dire cette monétarisation quelque part, parce que c'est comme ça que ça se traduit, de la biodiversité, c'est quand même très... ça plaît pas à tout le monde. Et c'est un des points d'achoppement actuellement dans les discussions. Au moins, c'était au mois d'août. Hein. Ce qui se passe à Paris, j'en sais rien. Ce que j'espère à Paris, c'est qu'il y a un consensus, qu'il se passe des choses intéressantes, que ça se passe comme au GIEC.
C'est ce que j'allais vous demander. Qu'est-ce que vous attendez finalement de cette réunion de l'IPBES, compte tenu de tout ce qu'on a dit là, c'est-à-dire la nécessité de redonner un peu de chair, un peu de corps à l'approche scientifique de la biodiversité?
Bah, j'oserais dire ce que j'espérais, c'est ça justement, d'abord. Et puis d'autre part, de serrer un peu plus le discours, d'éviter des mots qui sont... Par exemple, on parle des services des écosystèmes. Moi, le terme service me gêne, parce que le terme service... Comment se développe un service? C'est un service entre deux êtres humains. C'est-à-dire, il y a une forme de contrat entre un être humain et un autre être humain pour que l'un des deux donne un service à l'autre. C'est rémunéré. Quand on parle de service des écosystèmes, qui est le contractant? Alors, il est vrai qu'on a parlé de tout ce qui était le contrat naturel, autour du fameux contrat naturel, Michel Serres. Mais c'est reste quand même une position très philosophique et pas une position d'action. Alors, le problème de l'économie, c'est que l'économie, de toute façon, elle va. On a fait dans les années 60, les années 80, des tas d'essais justement sur les évaluations économiques des écosystèmes. C'est assez épouvantable. Les résultats sont assez épouvantables. On s'est aperçu, par exemple, que un éléphant valait 10 fois plus cher qu'un être humain. Moi, ça me gêne quand même un peu.
Justement, puisque vous parlez philosophie, Alain Pavé, il y a un livre important du philosophe britannique Timothy Morton qui a publié récemment chez Zulma qui s'appelle La pensée écologique. Et dans ce livre, Timothy Morton propose de se débarrasser tout simplement du mot de nature. Il est un peu comme vous, il dit il y a des mots qui viennent polluer la pensée, bien qui sûr, empêchent de penser sûr. Ce qui se passe, ouais. Et notamment ce terme de nature, bien sûr, il nous embête.
Oui. Le premier qu'il a dénoncé, enfin le premier à ma connaissance, il y a peut-être eu avant, hein, mais le premier à ma connaissance, c'est Condorcet. Qui a dit en gros, on utilise le mot de nature quand on ne sait pas dire autre chose. Cette espèce de notion vague de nature. Alors, bon, si ça reste au niveau poétique, pourquoi pas? Mais ça ne peut pas être un objet scientifique en tant que tel.
Refonder une écologie scientifique, refonder le terme de biodiversité, c'est finalement le projet que vous avez développé, Alain Pavé, dans comprendre la biodiversité, vrai problème et idée fausse, donc aux éditions du Seuil. Il nous reste 45 secondes à peu près, quelques pistes pour cette refondation.
Alors, premièrement, c'est de considérer que, de mettre le niveau de complexité au bon niveau, si je me résume, parce que c'est beaucoup plus complexe que ce qu'on imagine. C'est pour ça qu'on a des gros progrès à faire sur le plan scientifique et méthodologique. Parce qu'il y a un niveau de complexité dont on n'a pas l'habitude. On fait avec, parce que jusqu'à présent, on discute de la biologie des êtres vivants depuis un moment. Donc il faut refonder un peu tout ça. Et je crois que c'est une idée qu'on avait discuté avec une collègue mathématicienne, qui a été d'ailleurs fait partie des gens qui m'ont aimablement aidé à finaliser ce livre. Donc Claudine Schmitt-Lenné, qui m'a dit un jour, mais en fait, ton écologie, c'est une science des interactions. Elle avait parfaitement raison. Je crois que c'est là-dessus qu'il faut rebâtir l'écologie comme étant une science des interactions. Et à ce moment-là, parler d'écosystème d'entreprise n'est pas ridicule, mais la plupart du temps, ça l'est quand même pas mal.
Merci beaucoup Alain Pavé d'être venu nous parler de votre livre « Comprendre la biodiversité, vrais problèmes et idées fausses » donc aux éditions du Seuil dans la collection Sciences Ouvertes. Je rappelle donc qu'on attend pour lundi, c'est ça les propositions de l'IPBES, on devrait avoir
un rapport.
En plus,
c'est le jour de mon anniversaire.
Ah bah écoutez, espérons qu'ils vous feront un cadeau pour votre anniversaire. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagné cette semaine pour la grande table. Pour la grande table idée, c'était Camille Fouchard et Laura Dutèche-Pérez. À la grande table culture, Oriane Delacroix et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse d'Antoine Suzarelli et Mathilde Thon-Fourcade. À la réalisation aujourd'hui, Milena Hellig et Anna Holweck. À la technique, Nicolas Slimani.